Vous êtes avec SBS French.
Michel Aron, vous avez travaillé en tant que journaliste en Afrique pendant 3 décennies pour la BBC, le Financial Times et Reuters. Vous êtes devenu l'une des grandes spécialistes sur le continent. Vous avez d'ailleurs publié plusieurs ouvrages sur différents pays africains, dont des ouvrages sur le Rwanda, je vais en citer 2. Do Not Disturb, The Story of a Political Murder and an African Regime Gone Bad. Il y a aussi Assassins sans frontières, enquête sur le régime Kagame. Dans notre entretien, nous aurons l'occasion de revenir sur ces ouvrages, mais nous allons surtout parler de votre prochaine visite en Australie en marge du 30e anniversaire du génocide des Tutsis. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur SBS French.
Merci. Bonjour.
Lors de votre prochaine visite, plutôt tournée en Australie, vous allez vous rendre dans différentes villes du pays. Et vous avez été notamment invité par la Fédération des communautés rwandaises d'Australie lors de leur commémoration des 30 ans du génocide. Un événement significatif car il va honorer la mémoire de toutes les parties prenantes pour partager des récits de résilience et de guérison et pour éclairer l'impact du génocide et du parcours vers la guérison. Pouvez-vous nous éclairer sur la signification de cette commémoration?
Pour les anniversaires, c'est, je pense qu'ils représentent une opportunité pour penser aux disparus, pour faire un deuil. Mais aussi, il faut accepter qu'il y a toujours un côté politique. C'est aussi un moment de statecraft, si on peut appeler ça. Aujourd'hui, on voit qu'il y a plein de dignitaires, de VIP, de politiciens. Il y a l'ancien président américain, Bill Clinton. Il y a notre Development Secretary ici en Angleterre, Andrew Mitchell. Il y a le président israélien qui sont tous dirigés vers Kigali et ils arrivent là-bas et ils ont déjà posé des gerbes au Genocide Memorial. Alors c'est aussi un moment politique, il faut l'accepter. C'est pas seulement un moment de commémoration.
C'est donc un moment solennel, un moment éminemment politique, mais comment cet événement de partage d'histoire vécue va-t-il aider des survivants du génocide à trouver la résilience, à partager leur parcours vers la guérison?
Bon, chacun a suivi son chemin particulier. Je pense que beaucoup de Rwandais ont fait un gros effort. Ceux qui habitent au Rwanda, c'est la plupart, ont dû faire vraiment un gros effort parce que on sait que grâce à Gacaca, le processus de justice qui a eu lieu au Rwanda, que souvent il y a les gens qui ont été des génocidaires, qui maintenant habitent, ils ont passé des années en prison et maintenant ils habitent encore une fois chez eux, sous les collines, et souvent ils habitent à côté des familles qui ont subi leur crime. Et je pense que les Rwandais, ils ont accepté que c'est nécessaire, que la justice, une fois que c'est fait, la justice, il faut accepter que ces personnes font partie de la communauté, les accepter et vivre à côté. Ce que je pense reste toujours un problème quand même, c'est que on est très conscient qu'au Rwanda d'aujourd'hui, il y a eu ce processus et c'est très correct que les génocidaires ont passé des années en prison, mais en même temps, il y a aussi eu des crimes commis par le FPR après qu'ils ont envahi le pays et pendant le génocide et aussi surtout après au Congo, République démocratique du Congo. On sait qu'il y a eu beaucoup de crimes, des milliers de morts, des dizaines de milliers de morts, parmi la communauté Hutu et c'est pas accepté au Rwanda d'aujourd'hui de parler de ces morts. Alors il y a un manque de c'est pas équilibré, hein, il y a un manque de justice et je pense que ça reste un gros problème pour le Rwanda d'aujourd'hui parce que faut accepter qu'il y a eu des morts des deux côtés, il y a eu des crimes des deux côtés, sinon on va jamais voir une vraie réconciliation ethnique.
Justement, au niveau international, on a salué le système des tribunaux traditionnels Gacaca, dont on les a salués d'avoir permis aux coupables de cohabiter avec leurs victimes au niveau local. Cependant, il y a un aspect de justice à un niveau international où toutes les parties au conflit doivent être jugées pour des crimes graves, des crimes de guerre, des violations des droits de l'homme les plus graves. Cependant, au niveau de cette même communauté internationale, on s'aperçoit que cette communauté ne s'est focalisée qu'à juger une seule partie au conflit, alors que l'autre partie semble jouir d'une totale impunité.
Ce qu'on voit, je pense, c'est « victor's justice », le danger, le risque avec « victor's justice », la justice pour les gagnants, c'est aussi que ça devient la réconciliation des gagnants. Et ça, c'est pas une vraie réconciliation parce que ça laisse un goût amer. Et je pense que c'est très difficile de savoir ceux qui pensent un Hutu ordinaire dans une commune sur une colline à l'extérieur de Kigali. Mais ce qu'on sait, il y a eu des citizens bloggers, des journalistes qui ont souvent dit en public, écoute, mon grand-père, ma grand-mère, ma tante, ils ont été assassinés par le FPR avant le génocide, pendant le génocide, et ils sont tous en tôle maintenant. Ces gens-là, on les a accusés de genocide denial, de nier le génocide, et ils vont passer beaucoup d'années maintenant en prison. On voit qu'on utilise cette accusation de négationnisme, on le lance même contre des Tutsis qui ont perdu des membres de leur famille Tutsis pendant le génocide, et s'ils osent parler de l'autre côté et de ces tueries de Hutu, eux aussi, ils ont été accusés de négationnisme et ils sont passés en prison. Et il y a un cas très bien connu qui est le cas de Kizito Mihigo, qui était le chanteur très, très célèbre, très, très, très respecté, qui a commencé à un certain moment dans ses ouvrages, dans ses chansons, de parler de reprisal killing, que c'est le terme qu'on utilise pour décrire les assassinats commis par le FPR. Il a perdu son poste. Il s'est trouvé en prison, accusé d'être négationniste, mais aussi d'être avec les insurrectionnistes, les terroristes.
Il a fini par perdre sa vie, hein.
Oui, effectivement, il a été amnestié et pardonné par le président. Et, mais après, il a essayé de fuir le pays. Il s'est fait arrêter et il est mort en prison. Et bon, c'est un mort très suspect. Pour moi, c'est un cas typique du fait que même si on est un Tutsi, lui, il avait perdu des membres de sa famille pendant le génocide, mais il disait, pour avoir la paix dans ce pays, il faut reconnaître qu'il y a aussi eu des crimes commis par le FPR.
En mentionnant Kizito Mihigo, eh bien, cela nous permet de faire certaines connexions à la France et à l'Australie, car si ma mémoire est bonne, à un certain moment, Kizito avait trouvé refuge dans la zone turquoise, une zone qui avait été mise en place par l'armée française pour protéger les gens qui fuyaient les génocides et les massacres. La protection de cette zone a été ultérieurement confiée à une force des Nations Unies dont faisait partie un contingent australien. Et on se souvient que cette zone a été, le camp déplacé, a été démantelé dans un bain de sang par l'APR, l'armée patriotique rwandaise, l'armée du FPR devenue armée gouvernementale et en présence du contingent australien. Pour revenir à l'événement où vous allez participer pour commémorer le génocide, cet événement va aussi honorer la communauté internationale, notamment la participation humanitaire de l'Australie. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette participation de la communauté internationale et l'honneur aux troupes qui ont porté secours aux populations?
C'est une histoire très compliquée pour l'Australie. Je trouve le rôle qu'ils ont joué assez important, surtout pour ce massacre à Kibeho, parce que les peacekeepers australiens étaient témoins d'un gros massacre. On pense qu'il y a eu 8000 personnes tuées du Hutu, déplacées, tuées par... À l'époque, c'était l'armée rwandaise sous les ordres de Kagame. Et les peacekeepers australiens ont témoigné, ils ont écrit là-dessus. L'Australie sait très bien ce qui s'est passé à l'époque. Si on regarde un peu plus en gros, moi, je trouve que c'est bizarre parce que ce qu'on voit, c'est un homme fort, Kagame. Je vraiment pose un problème maintenant au niveau géostratégique dans les Grands Lacs parce que il soutient un groupe rebelle qui est le M23, le mouvement 23, qui sème le désordre au Congo de l'Est. Il a des très mauvaises relations avec ses voisins, Ouganda et le Burundi, et surtout le Congo. Quand même, malgré tout cela, il se présente, et les Occidentaux, sauf les Américains, ils ont tendance à accepter que Kagame, c'est un homme fort qui mène la stabilité et la paix. Et je trouve que c'est complètement contradictoire, ça n'a pas de sens. Ce que je vois récemment, c'est que la relation de Kagame avec la France devient de plus en plus fort. Et je pense que la France fait plein d'erreurs là-dessus. Et c'est une politique très, très cynique de la part de Paris. Mais avec les Américains, vraiment, les relations entre le Rwanda et les États-Unis, ils sont très mauvais maintenant. C'est intéressant qu'il y a eu Bill Clinton qui s'est présenté à cette commémoration, mais Blinken ne va pas être là. Biden non plus. Et je pense que les relations entre ces deux pays sont très tendues maintenant. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelques pays, le Royaume-Uni, c'est un de ces pays, la France, c'est l'autre, qui ont décidé que Kagame, c'est un partenaire très important, un allié absolument essentiel, mais les Américains ne partagent pas cette opinion.
Et justement, quel regard portez-vous aux relations entre Paris et Kigali aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on a connu dans les années 90, des tensions et aujourd'hui une apparence de réchauffement entre les deux capitales?
Je vois que la France vient d'annoncer 400 millions d'euros, un accord, un soutien pour le Rwanda qui est énorme comme somme. Et je vois aussi que Macron va donner... Il va faire tout un discours aujourd'hui sur le rôle de la France, sur la culpabilité de la France. Et je trouve la position de Paris et la France sur le génocide au Rwanda, c'est assez bizarre. Moi, je suis complètement d'accord qu'il faut, et c'est bien que la France se pose des questions sur son passé colonial, comme nous on fait ça ici en Angleterre, qu'on accepte qu'on a commis des erreurs et qu'il y a un compte rendu français sur son passé. Mais c'est très bizarre que on voit que en essayant de faire cela, on devient très 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 amis, allié avec un nouveau homme fort, un nouveau dictateur en Afrique. Alors la France, elle s'excuse, elle s'accuse d'avoir soutenu Juvenal Habyarimana et un système génocidaire. Et oui, et c'est vrai qu'on a soutenu cette régime, et on a aidé avec Opération Turquoise, on a aidé les génocidaires, le fonctionnaire de Habyarimana qui avait des sangs sous les mains de fuir le pays, et après ils se sont hébergés en France et on les a protégés. Qu'on s'excuse, c'est bien, mais pourquoi commettre la même erreur avec Kagame? Selon moi, c'est ce que la France est en train de faire. Ils ont décidé que Kagame, c'est l'homme fort de l'Afrique qu'ils veulent comme allié. Ils sont très reconnaissants parce que Kagame a envoyé des troupes en Mozambique où il y a cette installation très importante de gaz du Total. Alors, ils ont décidé qu'ils vont tourner, ils vont pas voir, ils vont pas regarder les crimes commis par Kagame, son soutien pour le mouvement 23 au Congo, la répression au Rwanda, le fait que toutes les élections sont truquées, que tous les journalistes qui essayent d'écrire des choses franches et honnêtes sont en prison. Qu'en plus, Kagame, dès qu'il pense qu'il y a un rival potentiel à l'étranger, il envoie ses agents pour essayer de les tuer. Et on accepte tout ça à Paris. Tout est accepté. On dit rien parce que c'est le nouveau allié de la France. Et c'est exactement la même erreur qu'ils ont commis avec Habyarimana et avec Mobutu, qu'ils soutenaient aussi. Et je trouve que c'est une politique qui est énormément cynique, mais aussi que c'est en même temps cynique et naïf. Parce qu'on a vu que ça s'est pas bien passé avec le Zaïre, ça s'est pas bien passé avec le Rwanda. Ils sont là maintenant à demander des excuses de tout le monde pour ce qu'ils ont fait dans ces deux pays. Et en même temps, ils sont en train de répéter exactement le même erreur.
Si je comprends bien, il y a un certain renversement des rôles. Les États-Unis avaient été des soutiens quasi inconditionnels de Kagame, surtout Bill Clinton. Et aujourd'hui, donc, vous nous parlez d'une certaine tiédeur des relations entre Kigali et Washington. Quel regard portez-vous sur cette tiédeur et ce refroidissement des relations entre Kigali et Washington?
Oui, il devient de plus en plus froid. Je pense que c'est effectivement parce qu'il regarde de loin le rôle que Kagame joue dans les Grands Lacs. Et il voit que il y a toutes ces opérations, ces interventions militaires que Kagame a menées au Congo, aussi son ingérence dans le Burundi, les relations très tendues avec l'Ouganda. Il voit que c'est un monsieur qui se présente comme l'homme de la paix, mais effectivement c'est l'homme qui mène des problèmes. Le Congo, c'est un pays absolument énorme avec une grosse population. Et je pense que les Américains, ils se posent la question pourquoi on va avoir cet allié, soi-disant un allié, un partenaire déstabilisé en continuation ce pays géant qui, pour nous, est beaucoup plus important. Et en plus, on risque de lancer une guerre dans les Kivu qui peut impliquer toute la région. On n'a pas besoin de ce type de problème. Et ils voient, pour eux, c'est de plus en plus plus clair que le problème, c'est vraiment le problème, c'est Kagame.
Et ça nous permet de revenir encore aux commémorations du 30e anniversaire du génocide de ces prochains jours à Canberra, parce que l'événement ne se limitera pas seulement au génocide, parce qu'ils vont voir aussi les victimes post-génocide, le massacre des Hutus notamment au Congo, et des tueries et des massacres des milliers de victimes congolaises. Selon des experts, il y aurait même eu beaucoup plus de morts au Congo que pendant le génocide rwandais. Quel regard portez-vous sur cet aspect-là de reconnaître toutes les victimes, y compris les victimes hutues et congolaises, corollaires au génocide rwandais?
Bon, effectivement, le docteur Denis Mukwege, congolais, qui en a donné le prix Nobel de la paix plusieurs fois, bon, tout le temps, il est là à dire en public, c'est où la justice? Parce qu'on a établi un cours, un tribunal à Arusha en Tanzanie pour juger les génocidaires. Maintenant, c'est fermé, c'est terminé. Mais où et quand est-ce qu'on voit la justice pour les tueries qui ont eu lieu dans les forêts du Congo? Et on sait bien que c'est l'AFDL, le groupe rebelle, qui était fondé par le Rwanda et aussi l'armée rwandaise, qui ont tué des dizaines de milliers de Hutus déplacés. Et oui, peut-être il y avait des soldats, des anciens soldats de Habyarimana et aussi les membres de Interahamwe parmi eux, mais il y avait aussi beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, beaucoup de vieilles personnes et beaucoup de civils. Et il n'y a jamais eu de justice pour cela. Et aujourd'hui, on voit que tous les gens sont là à Kigali pour parler du génocide, pour exprimer leurs regrets, mais on n'a rien fait pour rendre justice aux victimes, à ces victimes-là dans les forêts du Congo.
Et ça continue, il y a beaucoup d'autres qui sont encore là, et avec la résurgence du M23, les tueries, les crimes, les meurtres, les abominations en tout genre, c'est poursuivre. Et nous y reviendrons dans notre prochaine conversation quand même sur le M23, parce que le parcours du M23 rappelle énormément le trajet du FPR, sa trajectoire vers la victoire. On se souvient que pendant la guerre, ils revenaient au Rwanda, ils étaient repoussés vers la frontière, ils se regroupaient en Ouganda, ils revenaient, et ainsi de suite. C'est le même parcours que le M23 qui a été défait en 2013. Ils se sont exilés, entre guillemets, au Rwanda et en Ouganda, pour revenir encore plus fort qu'auparavant, 10 ans plus tard, alors que les deux pays, Ouganda et Rwanda, auraient dû, en guise de bonne relation avec de bons voisinages avec le Congo, auraient dû suspendre et dispendre ce mouvement, mais ils l'ont gardé en veilleuse pour le réactiver au moment voulu. Mais nous y reviendrons dans quelques jours. Mais pouvez-vous nous en dire plus sur le rôle de la vérité, de la guérison et de la réconciliation dans le processus de commémoration du génocide rwandais?
Bon, je suis pas un expert, mais je pense pour avoir une réconciliation, une vraie réconciliation, il faut avoir un certain niveau de honnêteté et de transparence. Et ce que je vois, c'est que dès qu'on commence à donner une vision un peu plus large sur ce qui se passe, s'est passé au Rwanda, et par exemple moi, comme écrivaine, comme journaliste, dès que je parle un peu de ce qui s'est passé entre 90 et 94, pendant que le FPR, après que le FPR a envahi le Rwanda, et on sait qu'il y a eu des tueries au nord dans toute la région que le FPR contrôlait. Et dès qu'on parle de ça, ou on parle du Gersony Report, ce rapport écrit par un enquêteur des droits de l'homme spécialiste américain, qui a bien établi que le FPR était en train de tuer en masse des Hutus au sud-est du pays. Et dès qu'on parle de ce qui s'est passé au Congo, on se fait accuser d'être un
négationniste.
Genocide denial. Et ça, c'est une accusation très, très grave. Et on le lance tout de suite, mais, sans y penser. Et comme j'ai dit dans mon livre, moi, j'étais un des journalistes qui ont on a fait des reportages sur le génocide. Moi, j'étais dans cette église où il y avait des tas de corps. Je suis parmi les journalistes, les médias qui a beaucoup parlé des tueries de 94. Alors, lancer cette accusation contre des personnes comme moi, ça montre à quel niveau le régime, la propagande officielle, on respecte rien du tout. On utilise cette accusation pour faire taire les gens qui osent critiquer le gouvernement et les gens qui osent dire oui, mais il faut avoir un certain équilibre dans le discours pour voir un peu de guérison. Il faut avoir un niveau d'honnêteté.
Ouais, avoir une certaine hauteur par rapport aux événements, surtout vous qui n'êtes pas impliqué, vous êtes une ressortissante britannique, vous travaillez pour des organismes internationaux, des organes internationaux, et on vous accuse quand même de complicité.
Oui, à l'époque en 94, j'étais pigiste pour BBC et l'agence Reuters. Après, j'ai beaucoup écrit parce qu'il y avait toute l'époque avec la FL et la chute de Mobutu. Ouais. Correspondant pour le Financial Times. Et maintenant, j'ai écrit 5 livres sur l'Afrique. Et j'ai beaucoup écrit sur le Kenya, sur l'Érythrée, sur le Congo. Et dès qu'on ose dire quelque chose qui est un peu critique à l'égard du gouvernement à Kigali, tout de suite, on devient un criminel, soi-disant, et on se fait accuser de toutes sortes de crimes affreux, horribles, parce que, on n'accepte pas une discussion, un débat plus honnête.
Michael Arong, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous consacrer quelques instants pour discuter de ces événements. J'espère que nous allons pouvoir continuer cette conversation lors de votre prochain séjour en Australie. Et à très bientôt.
OK, avec plaisir.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.